France Info.
Notre sujet, c'est bien sûr ces franchises médicales qui viennent de doubler sur chaque boîte de médicaments, on le disait, et pour tout acte paramédical, de 50 centimes à 1 euro. Franck Boisys, vous vouliez réagir sur les propos de Yannick Halimi auparavant.
Pendant le flash, j'ai ressorti certains chiffres, parce que Yannick Halimi nous dit que les médicaments ne sont pas assez chers payés en France. Alors, j'ai simplement repris l'exercice 2023 de Sanofi, qui est notre premier laboratoire français, qui a, au bas mot, simplement fait, excusez-moi du peu, 10 milliards d'euros de bénéfices nets sur l'exercice 2023.
Je n'ai pas parlé des bénéfices de certains Big Pharma, j'ai parlé du prix des nouveaux médicaments. Médicaments qui empêchaient de financer la recherche. Madame Coutinet m'a répondu, remarquez.
Ce sont typiquement, Yannick, les éléments de langage des laboratoires pharmaceutiques. C'est-à-dire qu'ils disent, finalement, si on ne met pas nos prix, nos nouveaux médicaments à un prix suffisamment élevé sur le marché, on ne pourra pas financer notre recherche. Ça va même beaucoup plus loin, je crois que Nathalie Coutinier pourra le confirmer, c'est qu'il y a une sorte de chantage qui s'exerce maintenant. C'est-à-dire qu'un labo, quand il a un médicament innovant, dit, bon, bah, écoutez, c'est très simple, si vous ne le remboursez pas à tel niveau, bah, je le mets chez vos voisins européens, mais vous ne l'aurez pas chez vous.
Vous confirmez, Nathalie Coutinier ?
Un chantage, ah, et une difficulté. Et tout à fait. Et il y a aussi une difficulté pour les autorités de ne pas accepter un médicament remboursement au prix exigé par le laboratoire et de faire face aux associations de patients, par exemple, qui vont pas comprendre, et on peut aussi les comprendre, que ce médicament soit pas accepté. Donc effectivement, dans les négociations de prix sur les nouveaux médicaments, ce sont les laboratoires qui ont le pouvoir le plus important.
Yannick Halimi, pour revenir simplement sur cette mesure, ce passage de 50 centimes à 1 euro.
Oui, alors effectivement, Madame Coutinet rappelait que c'était en 2008, enfin c'était Nicolas Sarkozy qui l'avait mis 2008, en appelant à la responsabilisation.
Que dit aussi Bruno Le Maire d'ailleurs actuellement.
Voilà, absolument, alors voilà, exactement, à la responsabilisation des consommateurs. Le problème est des malades, donc hein, les consommateurs étant malades la plupart du temps. Le problème, c'est que les mesures telles qu'elles sont dites, là, augmentation, moindre remboursement, touchent chacun d'entre nous, touche tout le monde, mais ne responsabilise pas tout le monde. Je veux dire que ça touche... Alors, les ALD, finalement, alors que Bercy, il y a quelques semaines...
Affections de longue durée.
Les affections de longue durée, les maladies graves, devaient être concernées par ces mesures. Finalement, Bercy a fait marche arrière, probablement sous la pression de
pas les femmes enceintes, pas les mineurs non plus.
Voilà. Il n'empêche que cette mesure touche, encore une fois, les malades et les moins malades, touche les personnes âgées et les jeunes, et touche surtout les personnes aisées de la même façon et les personnes beaucoup moins aisées. En revanche, elle responsabilise qui ? C'est-à-dire qui va en tirer les conséquences
faudrait
de ça ?
Faudrait distinguer pour vous ?
C'est plutôt... Peut-être qu'il faudrait peut-être distinguer, non pas pour à travers ces mesures-là, mais pour renflouer les caisses d'assurance maladie parce qu'elles sont en déficit et parce que la dépense va augmenter au regard de l'allongement de l'âge.
Vous voulez quoi, Yannick Halimi, un système à l'anglo-saxonne
Non, je ne dis pas ça. D'abord, je n'ai pas de solution. Je dis que, encore une fois, ceux qui seront les plus touchés seront ceux qui devront se serrer la ceinture, si je puis dire. C'est certainement pas les plus aisés pour qui payer 50 centimes de plus ou de moins ne change pas. Je veux juste émettre une piste, mais c'est vraiment comme ça, une façon de faire participer l'ensemble de la population, aussi bien les salariés que les épargnants, que l'épargne, que les revenus du travail, serait peut-être, encore une fois, je n'en sais rien, mais en tout cas, c'est conceptuellement possible, une augmentation, par exemple, de la CSG. De la contribution sociale généralisée qui au moins aurait un effet...
Donc augmentation des impôts.
Un petit peu, mais en tout cas beaucoup plus juste que la baisse du remboursement.
Je fais appel à l'économiste, au journaliste économique que vous êtes, Franck Boisys.
Le déficit de l'assurance maladie prévu pour cette année, c'est 10 milliards. C'est quand même pas le bout du monde. Et on est toujours dans cette même philosophie, c'est-à-dire on a eu le même débat sur le chômage. C'est-à-dire que les comptes de l'assurance chômage...
Il est prévu
chômage,
pour 21 milliards l'année prochaine.
Là, on est à 10 milliards sur 2024. Et donc, sur un budget aussi important, pourquoi ne pas s'attaquer à d'autres poches d'économies possibles plutôt que de dire...
Santé.
Non, à d'autres poches d'économie possibles au sein de la santé, plutôt
bien
que
sûr,
de dire on va pénaliser le consommateur. Parce que quand on dit la santé gratuite, non, la santé, je suis désolé, elle n'est pas gratuite dans ce pays puisqu'elle est financée par nos cotisations sociales. Donc c'est une fausse gratuité. En revanche,
mais c'est une impression qu'on a parfois.
Ouais. C'est une impression qui peut dévaloriser le service, c'est vrai. Mais aujourd'hui, quand on voit ce qui se fait sur notamment les transports sanitaires, où là il y a des économies
bien
qui sont lancées
sûr.
Et qui peuvent être faites, quand on voit ce qui se passe sur certains effectivement médicaments de confort, peut-être sur lesquels il faut revenir, pourquoi taxer taxer de manière uniforme le consommateur, qui est surtout et avant tout un patient, en lui disant, quelle que soit la boîte de médicaments qu'encore une fois il n'a pas choisi de prendre, eh ben vous en serez de votre poche alors que vous avez déjà cotisé par ailleurs.
Cécilia Gabizon.
Je vais apporter une petite touche un peu différente. Pour le coup, le gouvernement cherche partout ou faire des économies partout, et quelque part, alors, et très délibérément dans les dépenses sociales. Les dépenses sociales, c'est la moitié du budget des dépenses du gouvernement. Les dépenses sociales, c'est la retraite d'un côté, on a vu ce que ça avait donné sur la réforme des retraites, et il y a la santé, à peu près 30% de ces dépenses sociales. Sur les dépenses de santé, alors là, il y a la franchise, ça paraît, alors j'entends tous les arguments et on pourrait les suivre, ça paraît en même temps un peu indolore, le 50 centimes qui passe à 1 euro, ça dépend quel est votre degré de maladie et de consommation.
La quantité de
médicaments, mais comme ça...
Cela dit, c'est limité à 8 euros
par an.
À 50 euros par an, c'est bridé toujours, aussi. Après, il y a une autre question qui est aussi en ce moment à l'étude, semble-t-il, c'est la question des arrêts maladie. Et la carence, en fait, avant qu'on rembourse les arrêts maladie. Aujourd'hui, c'est 3 jours.
Le délai de carence
qui serait rallongé plus largement. Donc effectivement, là, on voit finalement qu'on repasse tout ce qui constitue aujourd'hui les mécanismes de remboursement ou de prise en charge de la santé sont repassés, en fait, à l'étude pour alléger, en fait, la part de l'État là-dedans. Ensuite, est-ce que ça va conduire... Ce qui est intéressant, c'est pas simplement de faire des économies pour faire des économies, c'est est-ce que ça permet d'améliorer le système de santé ? Parce que c'est finalement un peu la discussion que vous aviez avant, même sur le prix des médicaments.
On peut poser la question à Nathalie Coutinet, qui est toujours avec nous.
Oui, je suis toujours avec vous. Moi, j'ai envie de dire deux choses sur ces franchises. D'abord, que ce sont en général les médecins qui sont prescripteurs de médicaments et non pas les patients dans les médicaments remboursés notamment. Donc, il y a déjà une limite à cette mesure. Et puis, n'oublions pas que de plus en plus, la santé, elle est financée par les complémentaires santé, par les complémentaires, les assurances complémentaires. Et là aussi, c'est de la dépense pour les ménages. Donc, ça fait des dépenses qui s'accumulent les unes aux autres. Et est-ce qu'on n'aurait pas plutôt intérêt à augmenter les cotisations sociales? Parce que, comme ça a été dit, les dépenses de santé augmentent. Elles augmentent non seulement en raison du vieillissement, peut-être pas tant que ça, mais aussi en raison des coûts, des soins qui augmentent parce que les technologies sont plus précises, les médicaments plus efficaces.
Et la population vieillit.
Et que la population vieillit. Mais ça ne change pas tellement, ça, la chambre, parce qu'on consomme la quantité de médicaments à la fin de sa vie, la plus importante, mais qu'on la dépense à 70 ou à 90 ans, ça ne change pas énormément. Par contre, la population s'accroît aussi. Et que surtout, le coût des soins est de plus en plus important. Donc, il faudrait peut-être réfléchir un peu à long terme sur l'évolution probable des dépenses de santé compte tenu des coûts des soins et d'adapter le financement à cette évolution plutôt que de prendre des mesurettes qui n'ont pas beaucoup de sens et qui généreront des inégalités d'accès aux soins, puisque comme ça a été dit aussi, c'est une mesure qui va surtout frapper les plus modestes, même si les bénéficiaires de la complémentaire de santé solidaire, la CSS, ne seront pas impactés. Il faut rappeler que pour bénéficier de la complémentaire santé solidaire, il faut toucher par personne 847 euros par mois. Et donc, ça peut être effectivement quelque chose qui pèse, hein, au-delà de ce montant, qui pèse sur les ménages les plus modestes. Et en ça, ce n'est pas une bonne mesure.
Une nouvelle piste de réflexion. Merci Nathalie Coutinet.